Starostin a été libéré le 29 août dernier par décision de la préfecture après 23 jours de grève de la faim et la mobilisation des réseaux de soutien aux personnes sans papiers. Mikhaïl Starostin est de nationalité russe, il est père de 3 enfants, tous nés en France, et il pourra fêter ainsi le 23 septembre prochain ses 30 ans en famille. Un anniversaire qui pourrait être aussi la promesse d'une paix retrouvée dans une vie qui n'a pas été, loin de là, un long fleuve tranquille. De sa désertion de la guerre de Tchétchénie en passant par la Légion, la prison et la double peine, 6 tentatives d'expulsion, 6 refus d'embarquement, et puis à sa grève de la faim en août dernier, un parcours de vie comme un parcours du combattant qu'il a bien voulu raconter au micro de la grenouille. Mikhaïl Starostin.
Voilà, je suis né à Moscou le 23 septembre 1978. J'ai grandi normalement. Ma mère, c'est un docteur. Mon père, c'était un ingénieur. Et j'avais 4 sœurs. On habitait doucement. J'allais à l'école élémentaire. Grandissais doucement. Toujours le bordel. Petite copine, normal. Quoi. Petite voiture, quand on pouvait. On tirait parfois des postes de voiture comme normal. À Moscou, ça fait un petit peu dangereux. Ça grandissait comme ça, comme un adolescent normal.
Dans quel quartier, Moscou?
Le quartier, c'était Belaïevo, si tu veux, c'est un arrondissement, pas le centre, mais à côté, c'est un peu, voilà, c'est à côté, quoi. Mais c'est grand, maintenant, Moscou, il y a 25 millions d'habitants, maintenant. C'est énorme, c'est un quartier comme, on dirait, tout Marseille, c'est un quartier chez nous. Donc, c'est comme ça que je grandissais, je faisais un peu, aller-retour, je partais à l'université, j'ai fait 2 ans d'université d'économie internationale.
Et c'est à l'école que tu as appris à parler français?
Voilà, j'avais une école spécialisée en français. Mais après, doucement, j'avais envie de parler, j'avais envie de continuer à discuter, de parler, d'apprendre, quoi.
Donc en 89, quand il y a eu la chute du mur de Berlin, tu avais...
En 89, j'avais 11 ans, voilà, 11 ans, j'avais.
T'as des souvenirs un peu de...
Ouais, j'ai vu la télé, le mur, ils l'ont cassé, tout ça, c'était intéressant. Après j'ai vu que les putsch aussi, les putsch de 91, 93 en Russie, qu'il y avait la Russie, l'Union soviétique, Gorbatchev. Ça, c'était amusant aussi, c'était intéressant. Et voilà, après à l'âge de 10, j'ai commencé à avoir 18 ans, il fallait que j'aille à l'armée, il y avait la guerre en Tchétchénie, ma mère elle a fait tout pour que je parte de là-bas pour ne pas la faire. Et je suis arrivé en France en 97, en janvier je suis arrivé en France pour m'engager dans la Légion.
D'accord, mais avant quand tu dis les putsch c'est amusant tout ça, pourtant en général les putsch c'est pas amusant, c'est plutôt...
C'est des trucs qui y a tout autour là, c'est comme ça le CNN qui montre en direct les choses, que c'est comme ça, il y avait 2-3 blessés, c'est malheureux, il y avait 3 morts, un truc comme ça. Au niveau du pays, comme les grands comme ça, ça fait un peu comique. Ça fait un peu qu'il y a les chars qui rentrent à Moscou dans le Kremlin, la place rouge. Au revoir, merci.
Merci beaucoup.
Ben voilà, on a vu un peu ça, c'était un peu comme ça l'histoire de la Russie.
Et la Tchétchénie alors, comment ça s'est passé?
Et la Tchétchénie, quand je devais aller en Tchétchénie, ma mère, elle était médecin, elle savait que ce jour-là, tous les jeunes qui étaient comme moi, dans l'enroulement, là, ils partaient automatiquement là-bas. Et il y avait la ville Grozny qui devait attaquer là-bas, tout ça. Voilà, et moi je suis parti en France.
Pourquoi tu as refusé d'aller faire la guerre en Tchétchénie?
C'est pas une guerre. Ça c'est massacre des civils, ça c'est la guerre de quoi? Parce que ça c'est pas une guerre là-bas, parce qu'une guerre pour le pétrole, juste pour pomper le pétrole, mais c'est pas pour faire la guerre contre des ennemis, parce que personne qui attaquait qui que ce soit là-bas.
Et ça, il y a beaucoup de jeunes gens qui faisaient le service militaire, qui le savaient, et
qui ont parti, mais il y en a beaucoup qui ont déserté aussi. Il y en a beaucoup qui n'ont pas y allé, qui sont partis en prison. Moi, je suis venu en France parce que j'ai entendu parler de la Légion étrangère.
C'est-à-dire
J'ai vu une publicité à la télé qui parlait de la Légion. Comme moi, j'étais jeune, l'armée c'est important, et j'ai décidé de venir ici. Je suis venu pour 5 ans, malheureusement, au bout de 3 ans, j'ai fait une connerie parce que j'avais un téléphone portable, voiture, c'était interdit à l'époque. Et ben voilà, mon contrat, il était résilié au bout de 3 ans. Là maintenant, c'est autorisé maintenant. Mais avant, si tu avais une carte bleue de compte en banque, tu avais une voiture, tu avais un abonnement téléphonique, il n'y avait que des trucs de mauvaises cartes avant. Tout ça, c'était interdit. La voiture, c'est même pas la peine. La voiture, si tu voyais avec une voiture, tu étais mort. Voilà, c'était qu'au bout de 5 ans de service, et il fallait que tu aies une autorisation de ton gradé, comme quoi tu peux avoir ça. Et voilà, j'ai eu ça, j'étais un petit peu jeune, je ne me suis pas défendu, j'étais viré.
C'était comment les années de Légion?
C'était impeccable, c'était magnifique, j'étais content, j'étais heureux. Sauf que j'étais un petit peu con, que je n'ai pas pris un défenseur au bout de 3 ans. Voilà, j'ai fait une erreur. J'ai dû me défendre parce qu'il me restait 2 ans, j'étais bien.
Mais t'es allé à des endroits de
conflit. Voilà, moi je suis allé à Djibouti. À Djibouti, on a fait 5 mois là-bas. C'était bien, c'était impeccable. Des ménages, parce que moi j'étais dans le régiment de génie. Les mines, les explosifs, des ménages, tout ça là. Et voilà, t'es là-bas, on s'est régalé, j'ai appris beaucoup de choses.
La Tchétchénie, ça te gênait, mais Djibouti, non?
Non, pas de problème, parce que Djibouti, c'était pas la guerre comme en Tchétchénie, c'est pas pareil. En Tchétchénie, quand je vois des Tchétchènes, je vois ma mère. À Djibouti, on faisait de l'instructage là-bas, un peu le truc, il y avait des trafics d'armes, le contrôle, pas le contrôle, tout ça. Voilà, sinon, après, on restait en France. Des manœuvres, nettoyage d'armes, serpillère, balai, normal.
L'armée, donc, quoi. Mauvaise nouvelle, ton contrat s'arrête.
Il s'arrête et un mois plus tard, je rentre pour 4 ans de prison, pour voler ma armée. Voilà, braquer un taxi. Comme ça, parce qu'on a bu, on était impigué, le contrat a été résilié, j'étais seul à la maison, j'avais un appartement à la rue Maréchal Fayol. J'étais un peu triste, je buvais comme en Légion, on a pris l'habitude de boire un peu là. On a bu avec un ami qui venait me voir et voilà, après on a pris le taxi, ça tournait la tête et c'est parti d'aller en vrille. On l'a pris, course poursuite la police, pas la police. Et voilà, 4 ans de prison.
Où ça?
D'abord Beaumetre, après Salon de Provence.
Et là, ça s'est passé comment?
À Marseille. Prison, prison c'est impeccable. Enfin, impeccable, façon de parler, impeccable. La prison, c'est normal, la prison. D'abord Beaumetre, un instruction, mandat de bon criminel. Ça va, j'ai fait un stage informatique 3 mois au bâtiment D. Ça s'est bien passé. Au bout d'un an, j'étais jugé. Depuis 4 ans, j'ai commencé à travailler à la boinderie des Beaumetre, bâtiment A. Après, quelques mois plus tard, j'étais transféré à Salon de Provence. Salon de Provence, un mois après, j'ai commencé le CAP peintre en bâtiment. Un an de stage.
Tu as rencontré des Russes là-bas?
Oui, il y en avait des Russes qui rentraient pour un mois, 2 mois, comme ça, histoire des papiers, des vols, tout ça. Là.
Et toi, dans ta tête, là, en prison, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, bon, je fais les 4 ans, tant pis, c'est bon?
Oui, mais le principal, c'est qu'au départ, c'est dur quand tu as un mandat de dépôt. Quand vous êtes en mandat de dépôt, vous ne savez pas combien de temps vous allez prendre. Il y en a qui disent que tu vas prendre 3 ans, il y en a qui disent que tu vas prendre 6 ans, il y en a qui disent que tu vas prendre 10 ans, je ne sais pas quoi. Mais après, quand tu es jugé, ça va, tu as pris 4 ans. 4 ans, c'est pas trop, c'est pas non plus pas beaucoup, ça va, 4 ans. Voilà, parce que le procureur il a demandé 6 ans pour moi. Il a demandé 4 ans, ça va. Et voilà, 4 ans, après tu planifies ta détention au niveau de 4 ans. Moi, dès que je suis rentré, c'est pas baisser les bras, c'est de suite le sport pour profiter du temps libre au maximum. Parce que la prison, c'est quoi? La prison, il y en a beaucoup qui le disent jusque maintenant, des gens qui sont intelligents, la prison, c'est l'école de la vie, la prison. La prison, il y a deux solutions. Ou tu sors très con, trop bête de là-bas, ou tu sors très intelligent. Ça dépend. Parce qu'on a beaucoup de temps, le principal, que ce temps il soit utile à ton cerveau et à ta santé. C'est pour ça que la prison, si tu veux être quelqu'un d'intelligent, que ça te sert de leçon, il faut que tu fasses ton sport pour le corps, ou sinon, il y en a beaucoup qui prennent des cachetons, qui fument le bambou, qui fument les cigarettes, qui s'insultent, qui se frappent, et voilà, ils font les cachots. Voilà, c'est ça la différence.
Mais tu as quand même fait les 4 ans, tu n'as pas eu de remise de peine pour bonne cause?
Si, j'ai eu de remise de peine, parce que j'ai pris 4 ans de prison, j'en ai fait 3 ans. C'est que, comme j'avais la police dans mon histoire, j'ai pas pu bénéficier des 14 juillet, tout ça. C'est que j'ai fait 3 ans de prison, quoi. Voilà.
Comment
c'est passé? C'est passé, c'est à rien que. C'est l'expulsion. Hein. Et après, tout le temps que je sortais de prison, c'est toujours pareil.
Ça ressemblait à quoi,
rien? Rien que, ça ressemble à rien. C'est pas bon, rien. C'est pas bon. Il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très bien passées là-bas.
Est-ce que vous connaissez
ça? Oui, il y a des mecs qui ont beaucoup de suicides, ils ont parlé beaucoup d'arrain quand même. C'était le bordel.
T'as rencontré des gens là-bas?
Eh oui, toujours. Toujours plein de monde. On raconte toujours des personnes. Hein. Chacun a son histoire, chacun a son truc.
T'es resté combien de temps à Rank?
faut 10 jours.
Ils t'ont pris, ils t'ont emmené à où? À l'aéroport après
pour t'expliquer? À l'aéroport pour refuser, ouais. Je voulais refuser d'embarquement au tribunal de Dex et ma signé résidence chez ma fiancée. Maintenant, c'est ma femme maintenant.
Tu l'as rencontré comment?
C'est un ami, avant, je connaissais un peu dehors, mais après, c'est un ami qui m'a présenté bien comme il faut que je le sache. J'ai commencé à parler au téléphone, à salon, un an et demi à peu près. Et ben, je suis sorti, je ne l'ai plus quitté. Et voilà, en 2002, le tribunal me lâche, je suis libre, il me libère.
Et donc là, tu décides quoi?
Voilà, je suis là, je vais avec ma femme, travail, blablabla.
Quoi comme travail?
Ça dépend, charpente, maçonnerie, parfois la sécurité par rapport aux anciens collègues de la Légion. Ouais. Un peu la sécurité.
Garde du corps, c'est ça?
Voilà, après on travaille à la ferme de célébrité. Vous connaissez la ferme de célébrité, l'émission qu'il a eue là?
L'émission de télé, ouais.
2004, là.
Ouais.
Mousse Diouf, tout ça, les Ségolais.
Ouais.
On travaillait là-bas, à Visan.
Comme garde du corps?
Voilà, on faisait les escortes le vendredi, tout ça, on les ramenait partout. Sinon, on travaille sur le site tout le temps. On travaille un peu à Cannes, au Centre-Tropez, sécurité. Là, quand on travaillait à la ferme, j'avais les fiches de paye de 3000 euros. Tout payé, une villa, tout ça. Mais ça, c'était un bon travail. C'était un mec qui s'en foutait. Il voulait juste des gens qui travaillent bien, professionnels. Et il n'y avait que des anciens légionnaires, mais bien travaillé.
Et là, tu te dis, bon, je vais rester en France toute ma vie, donc tu essayes d'avoir des papiers ou pas?
Oui, bien sûr. Mais pour l'instant, j'avais les faux papiers parce qu'en 2002, quand ils voulaient m'expulser, ils m'ont relâché. Ma mère, elle a eu peur qu'ils m'expulsent. Et elle m'a fait des faux papiers à Moscou pour cette identité. Voilà. Après, je me suis marié avec une fausse identité. Voilà, je commence à vivre avec. Comme ça, je dis que j'ai eu un contrat de travail avec une fausse identité. Et voilà, je commençais à travailler bien comme il faut. Et après, en 2005, j'ai bu un peu. Et voilà, je me fais arrêter à la gare Saint-Charles.
Parce que
je conduis un peu vite. Je conduis un peu vite, je me fais arrêter, voilà. État d'ivresse, et plus ils ont fait mes empreintes, ils ont vu que j'avais des faux papiers, quoi. Voilà, j'étais condamné à Marseille à 6 mois de prison, à un moment donné. Ça va, c'est pas beaucoup. 6 mois pour ça, c'est pas beaucoup. 6 mois de prison, j'ai fait au baumètre, je sors toujours pareil. C'est à Rennes. Et voilà. Et encore une fois, le refus d'embarquer, refus ça, et voilà.
Donc 2005, sortie de prison, à Rennes, refus d'embarquement, pareil, tribunal qui te relâche, assignation à résidence.
Tribunal qui me relâche, voilà.
Assignation à résidence, et voilà. Là, de nouveau, travail au noir, etc.
Voilà, toujours pareil, tout le monde, il me relâche, et ben, il me donne rien.
Et là, il y avait déjà les enfants.
Oh oui, là, il y en avait déjà une en 2003, et l'autre, quand je suis sorti, il avait même pas 4 mois, là, voilà, c'était le deuxième. Et après, en 2005, je tombe encore une fois. En 2005, en novembre, ma femme est enceinte. Il vient d'accoucher de la deuxième, là. En 2005, ben, je tombe un an de prison.
Un an de prison pour...
Vol, escroquerie, un truc comme ça.
Tu avais voulu une carte bleue?
Une carte bleue, voilà. Ah, un truc à la con, comme ça.
Et pourquoi tu as fait ça? Tu avais vu encore?
Ouais, un peu de sous, ouais, dépannage. Et là, j'avais pas de travail, j'avais rien. Je suis sorti de prison en 2005. Ah. Comment habiter un peu le quartier nord, comment ça, ça fait un petit peu, voilà, la tentation est forte, c'est pas une excuse, je ne vais pas chercher des excuses à ce geste-là, c'est honteux, mais voilà, quoi, sur le coup, on ne pense pas trop que c'est pas bon, quoi. On pense plutôt que sa femme est enceinte, qu'il n'y a pas beaucoup de sous, qu'il n'y a pas de ça, qu'il n'y a pas de ça, il n'y a pas de travail. Travail au noir, il y en a un petit peu de temps en temps, mais il n'y en a pas tout le temps. Voilà, truc que ça fait un petit peu, j'ai osé, voilà, quoi, j'ai perdu. Hein.
Donc là, tu vois, pour
vous... Un an de prison, d'abord Draguignan, après Beaumettre. Et moi, je sors en 2006, en avril, ou en mai, je ne me rappelle plus. Rebelote, Canet, refus d'embarquer. Et là, il me relâche, tribunal, mais encore une fois, Aix-en-Provence, il me relâche. Avec 800 euros d'amende. Il me donne 800 euros d'amende et il me relâche. Et bon, jusqu'à il y a un mois, que j'étais au Jarret. Je suis rentré du travail avec un ami, deux motards. Au niveau de la Timon, ils sont toujours là-bas, les deux motards. J'aurais dû passer à Orange ou un truc comme ça, je pense. Ils m'ont arrêté. Mon ami, il est parti. Il a appelé le Tokiwoki parce que je sais que je me suis fait contrôler déjà avant, plusieurs fois en voiture. Mais comme je parle, je donne le permis de conduire, il n'y a jamais de problème. Mais là, voilà, ils ont voulu taper le fichier central, mon nom, mon prénom, et je sais que. Quand tu tapes le fichier central, mon nom, le prénom, ils ont de suite une fiche sur moi, immédiatement. Que lui, les mesures d'expulsion, etc. Puis l'avocat a fait demande d'assignation à résidence pour abroger l'expulsion. Ça a été rejeté. Tous les tribunaux administratifs, ça a été rejeté aussi. Ça a rejeté de suite. Ça.
Tu avais beaucoup de demandes pour être.
Oh, il y en a plein. Ah, ouais. Il y en a plein. Tous les dossiers en moi, je sais pas. Tous les tribunaux, je connais par cœur. Presque tous les juges, je les connais. Ouais. Moi, je passais devant tous les représentants de préfecture, tout ça.
Et le Canet, c'est comment? C'est comme à Rennes?
Canet, c'est mieux. Canet, c'est beaucoup plus propre. Canet, ouais. C'est les chambres de deux personnes. Là, c'est simple. En tout, Canet, tu as 90 places. 90 en gros. 100, maximum 100. Tu as 44, je crois que tu as 17 cellules à chaque aile. Il y a deux ailes. 17. 17 de 2. Ça fait 34, à peu près comme ça. Une salle télé, une petite cour de promenade au milieu, la grille à eau. Voilà, clim, ventilation, ça va. Question de ça, ça va, c'est propre. Douche dans chaque chambre, toilette chaque chambre. Et je ferme juste pour la nuit.
Et les journées, ça se passe
deux cabines téléphoniques, la journée c'est comme ça, hein. La journée c'est rien, il n'y a rien là-bas. Tu as le téléphone, tu as une salle télé, petite salle télé, c'est tout, hein. Tu n'as rien. La journée c'est tu fumes, tu parles, tu. Voilà quoi, tu parles au téléphone, hein, c'est tout. Hein.
Et les gens ils sont dans quel état d'esprit là-bas?
Oh, pff, y en a qui craquent beaucoup, il y en a qui pètent le câble. Toujours j'ai vu des mecs qui jouent avec des bouteilles en plastique, ils s'amusent n'importe quoi. Ils donnent même pas le ballon. Avant, en 2005, il y avait là-bas un panier de basket. Pour jouer un peu au basket. Après, comme il y a toujours des abrutis, des cons, ils ont voulu jeter le ballon sur les caméras. Comme toujours. Il y en a deux, trois cons. Ils ont levé le ballon. Il y avait un baby-foot. Il y a toujours deux, trois abrutis, ils ont cassé le baby-foot. Les chapacans. Ils ont levé le baby-foot. Maintenant, il n'y a rien. Il n'y a ni panier de basket, ni ballon, ni baby-foot. Il n'y a rien. Voilà.
Et comment ça se passe avec les gens qui vous surveillent?
Bon, ça dépend, hein. Il y a toujours des policiers, il y en a qui sont braves, il y en a qui sont pas trop braves. Il y en a qui foutent la merde, il y en a qui foutent pas la merde. Et les policiers là-bas, c'est pas pour dire du mal sur eux. Ils font leur travail, ils font ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils peuvent. Mais c'est pas un travail de policier, ça. Ça, c'est le travail d'un surveillant de prison. Et quand le policier, il fait le travail d'un surveillant de prison, c'est pas bon, parce que c'est un policier, lui. C'est pas son travail. Celui qui va en prison faire le surveillant, il sait qu'il va là-bas pour faire le surveillant. Mais les policiers, quand ils s'engagent dans la police, c'est pour faire les courses-poursuites, pour arrêter les délinquants. Mais voilà, mais eux, ils se retrouvent dedans à fermer et ouvrir les portes. C'est vrai qu'il y en a qui sont compatibles, il y en a qui ne sont pas compatibles sur ça. Il y en a qui sont en manque d'action, il y en a qui cherchent d'action. Sauf que l'action, là-bas, il n'y en a pas. Là-bas, l'action, c'est nul.
Tu as eu des familles là-bas, avec des femmes, des enfants?
J'ai vu des mineurs. Là, quand j'ai vu 4 mineurs là-bas, voilà. 4 ou 5 mineurs. J'ai vu une fille, une femme. Il y en a là-bas, ils sont traités à eux. Mais ils sont bien traités, ça va.
Bon, toi, en tout cas, cet été, ça s'est mal passé. Comment tu as décidé de faire cette grève de la faim qui a duré 23
ans? Cette grève de la faim, c'est un coup de désespoir, c'est le nerf que j'avais. Parce que depuis 6 ans que je clame, que je leur dis, je leur redis, que je suis un brave garçon, malgré ce que j'ai fait la prison, je l'ai payé, mais je suis toujours un bon père. Au moins ça, ils pouvaient jamais me le rapprocher que je suis un mauvais père. Personne ne pourra me le rapprocher, ça. Que je suis un mauvais père, que je suis un mauvais mari. Et je laisserai personne dire que je suis un mauvais. Mais eux, ils n'arrêtaient pas de me le dire, ça. Ils n'arrêtaient pas de me dire que je suis un récidiviste, que je suis ça. L'avocat, il demande un dossier, il pose un dossier, il refuse en 3 jours. Et après, quand j'ai vu que le 6, j'avais le vol, le 6 août, j'ai vu que le vol était annulé parce que l'ambassade n'a pas donné de laisser passer pour moi. J'ai dit, c'est bon, j'attaque, j'en ai marre. On force, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que je sais que ça s'arrêtera jamais sinon. Les enfants, ils souffrent, bientôt l'école, ils me coupent comme ça, ils me lâchent tout le temps, ils ne me donnent jamais rien. À quoi ça sert qu'ils me lâchent? 3 jours après, je suis illégal, toujours. Quoi? Pourquoi 3 jours après? Même pas, 10 minutes après, je suis illégal. Le premier policier qui m'arrête, il m'envoie de suite là-bas. Ça veut dire que ça veut dire quoi, ça? Mais comment vous voulez que j'avance, moi, après?
Ça a été dur pour tenir tous ces jours,
hein. C'est dans la tête, dans le cœur. Hein. Mmh. Avec une prière, avec une motivation pour ses enfants et pour quelque chose qui est sacré. Parce qu'il ne pouvait pas gagner la préfecture dans ce combat-là. Dans ce combat-là, pourquoi? Pour des simples raisons, des simples mais plus simples, il n'y en a pas. Première raison, la raison de Dieu. Le Dieu ordonnait à chaque homme de s'occuper de sa famille. C'est une obligation première qu'il y a. De faire grandir ses enfants, d'occuper de sa famille, de sa mère, de ses soeurs. Parce que je suis un seul homme maintenant, en plus. Mon père est mort en 2003. Je suis le seul garçon, à part mon fils qui est né le dernier, l'héritier maintenant. Je suis le seul. C'est ma première obligation. Deuxième chose, dans les vrais des familles qui m'ont donné à la mairie quand je me suis marié, qu'est-ce qui est marqué aux premières pages? Les parents, ils ont l'obligation de s'occuper de l'éducation de leurs enfants. Et là, ils sont en train de faire quoi, la préfecture? Ils sont en train de priver mes enfants de leur père qui doit leur donner l'obligation que c'est la Constitution, c'est la loi de la 5e République. C'est pour ça que c'est le combat qui était juste. Et c'est pour ça que c'est le combat que, même si ça aurait été 35 jours, je serais encore là pour 35 jours. C'est que j'ai maigri, j'ai jamais perdu autant de kilos. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis venu en France, j'avais 75 kilos, j'avais 18 ans. Là, je suis sorti de Grèce, j'avais 71. Quand je suis rentré au Canet, j'avais 85. Ouais, c'était dur, mais j'ai pas trop pensé. J'avais même pas envie de manger, rien du tout. J'étais tellement ailleurs, j'étais tellement persuadé dans mon truc que ça me voit juste parce que même n'importe qui est raisonnable sur cette terre en gamin, il va dire que tu as raison. Tu as raison.
Toi, si tu rentrais en Russie, qu'est-ce qui t'attendrait là-bas?
Ah, moi, beaucoup de policiers qui m'attendent là-bas. La première chose, c'est la Légion. Deuxième chose, c'est la désertion.
Désertion, ouais, pour la garde.
Là, j'ai pas fait l'armée là-bas, j'ai déserté, j'ai pas allé en Tchétchénie faire la guerre parce que c'était mon devoir d'un citoyen russe, un soldat russe qui coûte les ordres, qui va là-bas tuer des femmes et des enfants et pour le pétrole.
Et pourquoi la Légion, ça te porterait tort en Russie?
Et la Légion, parce qu'il y a un code pénal chez nous, le code pénal qui dit, d'ailleurs j'avais dans le dossier que je déposais de partout, code pénal qui dit, voilà, la loi s'appelle mercenariat. C'est que c'est la personne qui s'engage dans une armée étrangère d'un autre pays, qui est rémunérée, qui participe à des conflits militaires, qui ne se trouve pas en mission légale. C'est un mercenaire, ça s'appelle ça. Et c'est puni de 3 à 7 ans chez nous. C'est le code pénal russe qui dit ça.
Donc aujourd'hui, la préfecture, enfin il y a quelques jours, la préfecture a décidé de te libérer.
Voilà, un jour avant ma libération.
C'était quand?
C'était le samedi, c'était le 31, le 30 c'était.
Le 30.
Et la préfecture, il me lâche le 29, un jour avant.
Pour quelle raison?
Peut-être qu'ils ont compris, ils m'ont lâché un jour avant, et ils m'ont pas dit la raison, mais ils m'ont donné une convocation pour jeudi.
Donc voilà, pour demain, quelle est ta situation là? C'est une convocation au bureau des étrangers?
Voilà, c'est une convocation au bureau des étrangers pour...
Qu'est-ce qui va se décider là-bas?
Je pense que ça va être une assignation à résidence, je pense. Parce qu'ils ont demandé une pièce d'identité et des certificats de domicile, EDF, tout ça quoi. Je pense que ça va être une assignation à résidence, je pense.
Et la suite, c'est quoi?
Bon, la suite, si y a assignation à résidence, c'est la résidence, j'ai le droit de travailler en France légalement, c'est fini, quoi. Je vis tranquillement, je m'occupe de mes enfants. Je vais être régularisé, quoi. Et oui, mais c'est pas une carte de séjour, c'est un truc un peu spécial. C'est un truc que je pense qu'il faut que je pointe tous les mois ou toutes les semaines au commissariat pour dire comme quoi je suis là, quoi. C'est genre comme ça, contrôle judiciaire un petit peu. Minimum qu'il peut me faire. C'est le minimum qui peut me donner la préfecture. Et non pas, enfin, on verra demain, mais je pense que c'est ça qui va être. Et voilà, bah, le Dieu il m'a regardé, il m'a dit voilà, reste avec tes enfants. Parce que cette situation, il n'y a que lui qui pouvait le faire. Et je le remercie pour ça.
C'était Michael Starostin. Le jeudi 4 septembre 2008, le bureau des étrangers de la préfecture lui signifiait, comme il le pressentait, une assignation à résidence avec permis de travail allant jusqu'à fin janvier 2009. Un espoir pour lui, pour sa femme, ses enfants et les personnes qui l'ont soutenu d'un premier pas vers une régularisation qui permettrait à Michael Starostin et à sa famille de vivre en paix. Plus d'infos sur le soutien aux personnes sans papiers et contacts sur www.educationsansfrontieres.org.